Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Reflets et présence à information religieuse. Au programme, quand la marée monte, les produits de la mer. Jésus sans tabou. Et une histoire contemporaine de la passion. Bonne écoute.
Quand la marée monte, les produits de la mer. Un texte de Emmanuel Tassé, paru dans la revue Reflets en juin 2023. La demande est forte en produits de la mer au Québec. En 2021, selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, on consommait 8,4 kg de poissons et de fruits de mer par habitant par année, soit 72 000 tonnes. Dans les années 1950, cette consommation n'était que de 3 ou 4 kg, mais à partir des années 1970, elle a augmenté graduellement, raconte Gabriel Bourgault-Fauché, chercheur à l'IREC. Aujourd'hui, on fait venir de loin saumon, thon rouge, pétoncle, grosse crevette, morue, pangasius, tilapia, etc. En parallèle, très curieusement, l'exportation dans ce secteur va elle aussi bon train. Environ 50 000 tonnes sont produites localement. Crabes des neiges, homards d'Amérique, crevettes nordiques. En 2018, selon l'IREC, 62% des produits de la mer transformés au Québec étaient vendus à l'étranger et 19% dans les autres provinces canadiennes. Cela découle du modèle de développement hérité des Européens venus peupler des colonies en Nouvelle-Angleterre et en Nouvelle-France dès le XVIIe siècle, attirés par les bancs de poissons, les fourrures et le bois sont venus après, à exporter vers l'Europe. Ce modèle s'est cristallisé dans les façons de faire et de penser, explique le chercheur. On extrait, on emballe, on exporte, sans perspective nourricière pour les populations côtières. Pour l'économie des régions concernées, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine et la Côte-Nord, le secteur des pêches et de l'aquaculture se décline en trois grands maillons : la production, la transformation et la distribution. Des activités périphériques génèrent aussi de l'emploi dans les ports de pêche. Les chantiers navals, l'offre de produits spécialisés comme les compléments alimentaires ou encore celle d'engrais et de fertilisants agricoles. L'équipement de pêche, le transport, la recherche et le développement, ainsi que le volet touristique, génèrent aussi de l'emploi. Manger local, un défi. Yannick Ouellette est l'un des trois chefs qui ont participé à la démarche de « Mange ton Saint-Laurent », un collectif dont la mission est d'informer le public sur les enjeux scientifiques et sociétaux en lien avec les pêcheries. « Mange ton Saint-Laurent » met en valeur les ressources animales et végétales comestibles du fleuve. Le chef, lui, fait la promotion des produits régionaux de la Gaspésie depuis près de 30 ans. Il observe que si on lui offre un produit local, le client l'achète. Selon M. Ouellette, le maquereau fait partie de la tradition gaspésienne, ainsi que le caplan, le flétan du Groenland, ou turbot, et, dans une moindre mesure, la morue, appréciée dans l'ensemble des régions maritimes. Le problème, c'est l'approvisionnement. Il est plus facile pour un pêcheur de vendre un conteneur en Asie que d'assurer la distribution de ses produits au Québec, car il n'est pas équipé pour acheminer de petites quantités de poissons à différents restaurateurs, et ce, dans plus d'une ville. Il préfère les livrer à une seule usine de transformation. Il joue sûr, explique le chef. Et les Québécois perdent au change, car il ne reste que peu de poissons locaux sur leur marché. De plus, le poisson importé coûte moins cher. Une situation absurde, difficile à renverser. Je crois que la pression du consommateur en poissonnerie et en restauration aurait vraiment une incidence considérable sur la manière des pêcheurs de gérer la demande, dit-il. Il existe ici nombre d'algues, de crustacés, bourgeaux, crabes communs, d'échinodermes, concombres de mer, oursins verts, de mammifères marins, phoques, de mollusques, huîtres, pétoncles, de plantes de bord de mer, airelles rouges, et d'autres poissons encore, comme le sébaste. Autrement dit, les adeptes des produits de la mer ont un océan de possibilités qu'il n'est pas facile de révéler au grand jour. C'était « Quand la marée monte, les produits de la mer », un texte d'Emmanuel Tassé, paru dans la revue Reflet en juin 2023.
Jésus sans tabou, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 4 avril 2023 dans Présence, information religieuse. Jésus était-il écolo et féministe? A-t-il eu une vie sexuelle? Savait-il écrire? Est-il vraiment ressuscité? A-t-il même vraiment existé? Je suis assez vieux pour avoir reçu, dans les années 1970 et 1980, un enseignement religieux à l'école et je peux vous dire que ces questions, à l'époque, ne faisaient pas partie du programme. Soulever certaines d'entre elles en classe nous aurait certainement valu une visite au bureau du directeur pour insolence. Aujourd'hui encore, dans les milieux chrétiens conservateurs, les questions de ce genre sont considérées comme hérétiques. Le professeur d'études bibliques Sébastien Dohan, lui, depuis des années, s'en amuse et s'en sert pour donner le goût du christianisme à ceux et celles de plus en plus majoritaires qui se sont éloignés de cet univers ou ne s'y sont même jamais frottés. Doucement culotté, il accueille toutes les questions sur le christianisme, même les plus saugrenues, et se fait un plaisir d'y répondre de manière à la fois souriante, respectueuse, accessible et érudite. Le lire est un charme. Dans « Questions controversées sur Jésus », paru chez Novalis en 2023, 224 pages, il remet ça en réunissant autour de lui 7 théologiens et biblistes, Anne-Marie Chapelot, Francis Daou, François Doyon, David Lebel, Odette Mainville, Antoine Paris et Guylain Prince, qui partagent son approche. Le but, explique Dohan, est de proposer une réflexion sympathique et rigoureuse sur le personnage de Jésus. Si vous ne craignez pas de vous déboutonner, vous allez en redemander. Jésus sexué. Dohan, par exemple, s'attaque au tabou des tabous en se demandant si Jésus a eu des relations sexuelles. Question difficile, évidemment, puisque la Bible ne dit rien là-dessus. Qu'à cela ne tienne, le bibliste se lance. Le corps humain de Jésus devait fonctionner comme les autres corps humains, écrit-il. Pour dire les choses crûment, Jésus avait un pénis circoncis, et devait s'en servir comme les autres hommes. S'il n'a jamais eu d'épouse ou de relation sexuelle, s'il ne se masturbait pas, son corps a pu provoquer naturellement des orgasmes spontanés pendant le sommeil, comme c'est le cas, semble-t-il, pour la vaste majorité des hommes au cours d'une vie. Jésus, cela admis, ne se prononce pas vraiment sur la sexualité et préfère, en matière de morale, parler d'amour. Doan suggère d'ailleurs à l'Église de suivre son exemple. Le ton est donné. Un homme sur la terre. Un tel ouvrage ne pouvait évidemment pas passer à côté de la question de l'existence historique de Jésus. La réponse proposée ici est d'autant plus intéressante qu'elle est l'œuvre de François Doyon, docteur en philosophie, étudiant à la maîtrise en théologie à l'Université Laval, athée et laïciste militant, qui a déjà dénoncé l'imposture de la religion. Trois arguments, explique-t-il, sont avancés par ceux qui nient l'existence historique de Jésus. Les témoignages directs manquent. Paul est avare de détails précis sur la vie de Jésus et décrit ce dernier comme un être surnaturel. Conclusion, Paul a inventé Jésus. Les partisans de la thèse du Jésus historique répliquent avec quelques sources non chrétiennes. Flavius Joseph, Tacite, Suétone et Pline le Jeune, qui évoqueraient le personnage. La fiabilité de ces sources, souvent révisées par des copistes chrétiens, est plutôt faible. Les sources chrétiennes, le Nouveau Testament, sont plus convaincantes, note Doyon. Paul, par exemple, comme l'historien Joseph, parle de Jacques, le frère de Jésus. La mention ne peut venir d'une révision postérieure puisque les copistes chrétiens étaient attachés au dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Deuxièmement, la condamnation de Jésus par les Romains plaide en faveur de l'existence réelle. En écrivant les évangiles, les chrétiens veillent à ne pas provoquer le pouvoir romain qui les menace et attribuent donc une grande partie de la responsabilité de la mort de Jésus aux Juifs. Pourtant, ils ne cachent pas la crucifixion, une mise à mort typiquement romaine. Donc, des gens devaient savoir ce qui s'était réellement passé, avance Doyon. Plus encore, cette mort par crucifixion, honteuse, ne s'invente pas puisqu'une autre mort aurait été plus glorieuse. Par conséquent, conclut Doyon, l'hypothèse selon laquelle Jésus ne serait qu'une invention semble plus improbable que son opposé. Étant donné l'ancienneté de l'affaire, les preuves indubitables manqueront toujours, mais il semble raisonnable de croire que Jésus a marché sur terre et a parlé aux humains. Vous écoutez « Jésus sans tabou », une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 4 avril 2023 dans « Présence, information religieuse ». Ses frères et sœurs. Dans le même ordre d'idées, David Lebel, lui aussi étudiant à la maîtrise en théologie à l'Université Laval, en arrive, après une fine lecture des sources, à la conclusion que Jésus avait bel et bien des frères et sœurs biologiques. Paul, on l'a dit, parle de Jacques, le frère de Jésus. Les synoptiques, Évangile de Matthieu, Marc et Luc, mentionnent ses frères et sœurs. Le problème se pose, évidemment, en regard de l'idée de la virginité perpétuelle de Marie. Des auteurs optent donc, en ce sens, pour la thèse des demi-frères et des demi-sœurs issus d'un premier mariage de Joseph. D'autres disent que le terme « frère » peut avoir le sens de « disciple » ou de « cousin ». Où sont-ils, d'ailleurs, ses frères et sœurs quand Jésus, à 12 ans, à Jérusalem, discute avec les maîtres de la loi pendant que ses parents inquiets, sans autre enfant avec eux, d'après le texte, le cherchent? Lebel soupèse toutes ces hypothèses avant de conclure que le plus probable est que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. En accord avec lui, je ne vois pas pourquoi ce fait discréditerait le rôle de Marie dans l'histoire. La langue de Jésus. Le bibliste franciscain Guilain Prince se penche, pour sa part, sur les compétences linguistiques de Jésus. Savait-il même lire et écrire? Selon l'historien Daniel Marguera, Jésus parlait principalement l'araméen, parvenait à se faire comprendre en grec et savait probablement lire l'hébreu biblique. D'autres, comme l'historien irlando-américain John Dominic Crossan, imaginent plutôt Jésus en paysan illettré. Guilain Prince se range dans ce dernier camp. Jésus, explique-t-il, n'enseigne pas par des textes, mais oralement. Il évoque les traditions bibliques plus qu'il ne les cite. Quand il proclame des extraits bibliques, c'est qu'il les connaît par cœur à force de les avoir entendus à la synagogue. On peut donc présumer que, comme 95% des Galiléens, Jésus ne sait ni lire ni écrire, tout simplement, note Prince, parce qu'il n'en a pas besoin, ce qui n'enlève rien à sa sagesse, à son intelligence et à sa grandeur. Jésus vers. Sans craindre l'anachronisme, la bibliste Anne-Marie Chapeloud se demande si Jésus aurait voté pour le Parti vert. Était-il écolo? Bien sûr, il est presque toujours dehors, il marche beaucoup et pratique le locavorisme, mais c'est plutôt, à l'évidence, par la force des choses que par conviction morale. Son rapport aux animaux ne passerait pas le test de pureté végane. Il mange du poisson et envoie sans émotion des porcs se suicider dans un lac. Sa posture peut dès lors être qualifiée d'anthropocentrique, note Chapeloud dans une conclusion critique pour le moins intempestive. La bibliste, irritée par certaines figures bibliques et même évangéliques qui demeurent troublantes du fait qu'elles sont teintées de racisme, de sexisme, de mentalité patriarcale ou d'anthropomorphisme, tente ensuite une relecture symbolique de tout ce qui précède pour faire contrepoids, mais sa démonstration peine à convaincre pour une raison très simple. Le christianisme, que ça nous plaise ou non, est un anthropocentrisme, c'est-à-dire un humanisme, ce qui n'exclut évidemment pas un devoir de respect et d'amitié à l'égard de la création. Avec les femmes. Si Jésus n'était pas un écolo au sens moderne du terme, peut-on par ailleurs le qualifier de féministe en le considérant dans son contexte historique? La théologienne et romancière Odette Mainville n'hésite pas à le faire. À l'époque de Jésus, note-t-elle, les femmes juives étaient mineures du berceau à la tombe et donc privées d'autonomie. Pourtant, un grand nombre d'entre elles se retrouvent dans l'entourage de Jésus, ce qui ne va pas s'en surprendre. Plusieurs épisodes évangéliques montrent Jésus accueillant chaleureusement des femmes rejetées. La femme souffrant d'hémorragie, la pécheresse chez Simon, ou fréquentant des amis, Marthe et Marie, en l'absence d'hommes, une hérésie à l'époque. Cette dernière Marie est même présentée comme une disciple de Jésus, une position d'habitude réservée aux hommes dans la société juive du temps. Jésus discute avec la Samaritaine et défend la femme adultère. Après sa résurrection, il réserve sa première apparition à Marie de Magdala. Découvrant ce portrait, on ne peut que se désoler de la marginalité des femmes dans l'Église d'hier et d'aujourd'hui, infidèle à son maître féministe. Le Jésus qui habite les pages de ce livre n'est pas une icône intouchable qu'on sort pour impressionner la galerie. C'est une figure inspirante, puissante, un maître amical qu'on peut remettre en question franchement parce qu'on l'aime. Il lirait ses biblistes et théologiens audacieux avec le sourire. C'était « Jésus sans tabou », une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 4 avril 2023 dans « Présence, information religieuse ».
une histoire contemporaine de la passion. Un texte de Norbert Pichet, paru le 6 avril 2023 dans Présence, Information religieuse. Norbert Pichet, directeur national du service jésuite des réfugiés, signe ici une relecture de la passion. À chaque jour, il y a des gens qui subissent la crucifixion, écrit-il. L'histoire n'a pas changé. Monsieur demandeur d'asile devant le Conseil des ministres. Lorsqu'il fit jour, le Conseil des ministres provinciaux se réunit et on emmena monsieur demandeur d'asile devant eux. Les ministres lui dirent « Si tu es un réfugié authentique, tu devrais passer par les voies légales établies. » Monsieur d'asile leur répondit « En passant par les voies légales établies, je risque d'attendre très longtemps dans la peur et sans aucune garantie que ma demande soit entendue. » Les ministres lui dirent alors « En arrivant de façon illégale, vous nous coûtez très cher. Nos contribuables n'aiment pas payer pour votre hébergement, entre autres. » Monsieur d'asile leur répondit « Mais je ne suis pas un illégal. Personne n'est illégal. » Alors le président de l'Assemblée dit « Nous n'avons pas besoin d'autres témoignages. Il s'est déclaré légal. » Monsieur demandeur d'asile devant le premier ministre du pays. Le Conseil des ministres provinciaux se leva à l'unisson et l'amena au premier ministre du pays. Le Conseil des ministres provinciaux dit au premier ministre du pays « Ce monsieur d'asile s'est déclaré légal ici dans notre pays. De plus, il dit qu'il veut contourner les voies légales pour arriver ici et que c'est son droit de le faire. » Le premier ministre l'interrogea. « Êtes-vous vraiment un réfugié ?» Monsieur d'asile lui répondit. « Vous dites vous-même que je le suis. » Le premier ministre continua. « Mais il y a un processus à suivre avant de vous déclarer réfugié. » Monsieur d'asile lui répondit. « Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à subir ce processus. » Le premier ministre s'adressa au Conseil des ministres provinciaux et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de refoulement nécessaire à ce point. » Le Conseil des ministres exige le renvoi de M. d'asile. Mais le Conseil des ministres et la foule insistaient avec force. « Il s'est déclaré réfugié. Il s'est déclaré légal. On ne peut pas lui faire confiance. Il doit être renvoyé. » À ces mots, le premier ministre consulta son entourage immédiat. Il revint et assembla le Conseil des ministres provinciaux. « Vous m'avez emmené ce monsieur d'asile en l'accusant d'être un illégal, mais il n'a rien fait d'illégal. Irrégulier, oui, mais rien d'illégal. Toute personne a le droit de traverser une frontière internationale si elle demande l'asile. Il va subir le processus qui déterminera s'il est un réfugié authentique ou non. » Mais le Conseil des ministres provinciaux s'injuria et souleva la foule en criant « Il ne respecte pas nos lois, il utilise nos services, il ne contribue rien, il prend nos emplois. » Le premier ministre répondit « Mais qu'a-t-il donc fait de mal? Je vais le relâcher. Ce sera donc au tribunal des demandeurs d'asile de décider de son sort. » Mais eux crièrent et insistèrent de plus belle que M. d'asile devait être refoulé. L'arrestation de M. d'asile. Alors, le premier ministre du pays, ne voulant pas se mettre le Conseil des ministres provinciaux à dos et voulant satisfaire la foule, décida de refouler M. d'asile. On a menotté M. d'asile et on l'a reconduit à la frontière. Quelques-uns de ses amis l'ont accompagné. Un des policiers avait un visage perturbé. On l'a livré aux autorités du pays voisin. Les autorités de ce dernier l'ont pris. Dans les jours qui ont suivi, des proches de M. d'asile ont essayé de le contacter sans succès. Ils ne savent pas s'il est en détention. Ils ne savent pas si les autorités du pays voisin l'ont déporté à son pays d'origine. Et nous, comment réagissons-nous? À chaque jour, il y a des gens qui subissent la crucifixion. L'histoire n'a pas changé. Les marginalisés, les pauvres, ceux et celles qui n'ont pas de pouvoir, ceux et celles qui dérangent, toutes ces personnes font peur aux riches de nos sociétés. Pourquoi? Parce que ces riches craignent de perdre leur richesse et de perdre tout ce qui vient avec ces richesses. Ne nous leurrons pas. Jésus est mort parce qu'il dérangeait. Il dérangeait principalement les personnes au pouvoir, les riches, les marginalisés de ce monde trouvaient refuge chez lui. Les demandeurs d'asile font partie des marginalisés qui dérangent. Ils ont besoin de notre accueil. Sinon, ils font face à la persécution, la violence et la pauvreté. Depuis le 25 mars 2023, nos leaders politiques ont décidé de s'en laver les mains et d'ainsi fermer la porte à la vaste majorité des demandeurs d'asile qui y frappent. Nous pouvons être solidaires des demandeurs d'asile et les soutenir. La résurrection ne se trouverait-elle pas là? C'était Une histoire contemporaine de la Passion, un texte de Norbert Pichet, paru le 6 avril 2023 dans Présence, Information religieuse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.